Nous sommes de retour pour la discussion sur les hebdos de Georges Anglade, ces hebdos qui sont publiés dans Le Nouvelliste. Nous discutons aujourd'hui du 36e hebdo, les boules de l'État, prise 5, du gouvernement à la gouvernance, de 10 expectatives à 10 chantiers. Georges Anglade, nous avons déjà passé en revue 5 de ces chantiers, PNH versus FADH, Constitution et Diaspora, Impunité et Corruption, Semer les transferts, Bourg-Jardin et Cité. Il nous en reste encore 5. Enfin, on y va tout carrément. Réseau de communication.
Alors, nous sommes dans l'émission structurelle de l'État et nous les avons regroupés en 3. C'est à l'État constructeur, l'État formateur et la population, le bien-être. Eh bien, quels sont les grands enjeux, les grands paris, ce sur quoi on puisse discuter? Dépendant de la communication, nous nous sommes étendus la semaine dernière là-dessus. Eh bien, le réseau des communications est le plus important des réseaux actuellement qu'il nous faille envisager à l'échelle du territoire national, à l'échelle donc des 27 700 km². Et je crois que le téléphone et la diffusion du téléphone portable nous a déjà montré la voie et l'opérationnalité et l'importance économique. C'est-à-dire, ça a été une grande victoire, une conquête, un droit revendicatif, même s'il coûte un bras à chaque budget familial. Mais ça a été la conquête d'un droit que celui de la possibilité de communiquer, d'avoir des nouvelles, de gérer ça, de parler à l'extérieur. Les communications, le réseau des communications actuellement étant le premier des réseaux qui puisse correspondre à ce qu'est devenu le pays, et surtout là où on s'en va du point de vue économique, du point de vue scolaire, du point de vue de la santé, par ce réseau de communication tel qu'il peut être pensé, on peut avoir la première grande maille actuelle. Et on avait dit qu'on repasserait la maille du routier en deuxième position de priorité en laissant les communications en première position, parce que le réseau de communication coûtera 200 fois, 300 fois moins cher que la maille du routier et sera 100 fois plus opérationnel que la maille du routier. Donc, voilà une priorité traditionnelle des ponts et chaussées anciennes au moment où la route dans ce pays était nécessaire pour l'accumulation donc du prélèvement sur les denrées d'exportation, alors que les vivres étaient maintenus à prix bas. Maintenant que ça a explosé complètement, c'est par les communications. C'est moins la route qui est une urgence de désenclavement que la communication qui a l'urgence de déclavement, alors qu'on peut très vite... Alors, je ne sais pas ce que coûte un cybercafé, je ne sais pas comment on l'installe, mais je sais très bien que c'est d'une très grande rapidité. En un rien de temps, en moins d'un an, on a vu la Digicel s'étendre absolument partout dans le pays. Et pour ne pas parler seulement de Digicel, je parlerai aussi d'Actel, de Comcel, enfin de tous ceux qui voudront bien et que je parle d'eux. Mais enfin, le système de téléphonie sans fil s'est installé. Et pourquoi pas avoir nos réseaux de communication qui permettraient justement d'être en communication pour tout, pour la santé, pour l'école. On peut imaginer maintenant un enseignement, on peut donner un cours à 600 sections communales en même temps, en étant tout simplement dans un seul studio, si toutes les 600 communes peuvent capter le signal. Ce qui est à notre portée pour pas cher. Donc c'est ce qu'on est en train de dire, c'est que le nouveau réseau, c'est le réseau de communication. Là, c'est une expectative et c'est un chantier, dans la mesure où en termes de maillage de la maille, la partie de l'État constructeur, c'est avant tout ce réseau-là qui fait priorité, qui fait besoin.
Bien entendu, Georges Anglade, le pétrole est de plus en plus cher. Peut-être que la voiture, telle que nous la connaissons aujourd'hui, disparaîtra dans 40, dans 50 ans. Mais là, vraiment, vous faites de la peine à ceux qui aiment les routes. Parce que ici, chantier n'avait de connotation que chantier routier.
Autrefois, probablement, certainement. Mais il restera des routes. Enfin, nous aurons des routes de déplacement, nous aurons des possibilités, mais nous n'aurons pas une obsession routière. Nous n'aurons plus cette préoccupation hors de la route, point de salut. Ce n'est pas vrai, la route n'est même pas la priorité actuellement. C'est-à-dire, c'est replacer les issues au niveau de ce qui permet les discussions. Et puis surtout, en débattre. S'il y a des gens qui croient que la route est encore le seul maillage, eh bien, on va reprendre l'histoire. On va reprendre l'histoire des trois derniers siècles et l'histoire des structures et dominantes d'organisation territoriale, de la régionalisation à la centralisation, de la centralisation à la mégapolisation, pour montrer bien que la route n'est pas actuellement.
C'était une étape.
C'était une étape, l'étape est franchie. Maintenant, allons-y sur la communication. Et nous avons un boom, une explosion, une libération encore 20 fois plus importante que ce qu'on a vu avec une année de cellulaire accessible.
Gore disait les autoroutes de la communication. Bon,
enfin, voilà, autoroutes sont de l'ordre de la communication.
Georges Anglade, on continue. L'Université d'État d'Haïti vous intéresse, on en a déjà parlé. La propédeutique, c'est une de vos... Enfin...
Mais oui, un de mes dada parce que ce que je dis, c'est le niveau de culture de connaissance de la réalité nationale. C'est-à-dire, il faut que la propédeutique définit toujours ce niveau moyen de connaissance que tout individu ayant son diplôme d'études secondaires devrait partager et avoir en commun. Mais sur la connaissance de ce que c'est que ce pays, permettez-moi simplement de dire, comme en 1974, au niveau de la 6e, l'espace haïtien était mis là pour devenir le niveau moyen que devait avoir tout élève qui rentrait, qui sortait de la 6e. Et dire, voilà ce à quoi il a été exposé. On ne lui demandait pas de maîtriser tout ça, mais il avait été exposé à l'espace haïtien, à son pays, à la connaissance des choses, à la pluie et aux animaux, à l'économie, à l'air, enfin, au manguier. Et il avait vu, il avait senti passer ce pays qui était le sien, autrement que de manière folklorique, autrement que, bon, il pourrait feuilleter ça aussi en avant, regarder les photos. Donc, on définit le niveau moyen. C'est ça la propédeutique. Nous avons une urgence d'offrir, mais rapidement, cette année, l'an prochain, un niveau de connaissance de ce que c'est que ce pays-là, ce nouvel espace-là, cette montée de classe moyenne-là. C'est-à-dire, en d'autres termes, il aurait fallu que le niveau de culture, à la fin du bac, un étudiant du bac puisse lire ces 36 hebdos et les comprendre. Si c'était ça, s'il y avait une obligation pour eux de traverser les 36 hebdos et de dire « mon niveau de compréhension du pays est que j'ai eu à discuter de ces 36 hebdos et puis je les comprends ». Eh bien, ce serait déjà, c'est ce qu'on appelle une propédeutique. C'est-à-dire, on fait une uniformisation de niveau. Il y a d'ailleurs une université qui vient de m'inviter, qui m'a invité à venir discuter des 36 hebdos avec leurs étudiants. Pendant des heures et des heures, ils ont photocopié les 36 hebdos. Ils ont donné 300 copies de ces 36 hebdos photocopiées à l'ensemble de leurs étudiants. Obligation de les lire, parce qu'un samedi matin, M. Anglade va débarquer et nous allons, pendant 2, 3, 4 jours, travailler l'ensemble de ces hebdos de façon à ce que tout le monde ait ce niveau-là à l'université. Et ceci est pour eux une propédeutique, c'est-à-dire uniformisation du niveau pour tout le monde. C'est un pari que je prends bien, j'aime bien, j'irai le faire. Ce sera au CAI d'ailleurs.
Okay. Petite fille, jeune fille avec maman. Là ah ben encore, oui, là... vous proposez qu'on fasse un choix.
On fasse un choix. Un choix sectoriel, que nous mettions l'ensemble de nos éléments sur Tifi, jeune fille avec maman. C'est-à-dire que l'on fasse cette ségrégation positive où l'on va sur l'emploi, sur la santé, sur l'éducation, en direction de ce qui est dans notre société, dans notre structure de population, dans notre pyramide des âges, le nœud, le point nodal là. Le carrefour sur lequel il nous faut travailler, ce sont les filles, casser la misère, casser la reproduction, le cercle vicieux de la misère, permettre par l'entremise de ça, en une génération, de faire la différence dans le tricentenaire. C'est encore une fois
c'est
à notre
aussi
portée.
La croissance démographique pour qu'enfin la croissance économique puisse être positive,
puisque une fois qu'on fait ce choix fondamental et de l'alphabétisation à l'école, etc., nous allons faire tomber la croissance de la population de plus de 50%. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 7 enfants par femme, ce qui est donc la moyenne actuelle dans ce milieu rural, nous tombons à 3 enfants par femme, ce qui est la moyenne actuelle de
ceux... Et là, déjà, les familles seront un peu moins pauvres.
On peut dire ça comme ça. Moins misérables, plus articulés. Une maman qui a été à l'école, une maman qui a fait des études, qui a surtout eu le privilège d'avoir été choisie par l'État, par sa société, pour être un réceptacle de bienfaits, si vous voulez, c'est-à-dire la dignité humaine de cette femme qui a reçu dès l'enfance la certitude qu'elle était porteuse de civilisation,
quelque part,
de pays,
c'est
etc.
Ça, c'est ça, c'est apporter la lumière de la connaissance dans le futur foyer.
Oui, donc on aurait ça là. D'autant qu'elles sont à 60-70% chefs de ménage, d'autant que le fait qu'il y ait l'éclatement aussi au nomadisme laisse encore plus de femmes en position de chef de ménage. Donc, ce serait bien qu'elles sentent quelque part qu'elles sont devenues la reine de quelque chose. Ce sont nos petites reines, là. Je disais une ville où l'enfant est roi, j'aimerais bien un pays où la petite fille est reine. Ce sera mon titre, un pays où la petite fille est reine. Voilà un rêve qui est une option fondamentale, économique, articulée, scientifique, qui permet à une société comme la nôtre de faire un bond en avant.
Tout à fait, parce que quelque part, nous refusons de faire le choix.
Ah, nous avons toujours refusé de faire le choix. Là, nous autres, c'est la politique du chien crevé au fil de l'eau. Ne choisissons pas, ne prenons pas de risques, ne bougeons pas, c'est la seule manière de ne pas avoir de problème, et c'est le courant qui détermine la trajectoire. Donc, c'est ce qu'on appelle le chien crevé au fil de l'eau. Le chien va là où l'eau l'amène, tout simplement. Donc, cette politique de chien crevé, au fil de l'eau, bon, mais c'est le refus de ça, c'est-à-dire il faut choisir, il faut faire des choix, il faut prendre des risques. Et cette société peut prendre des risques. Je la crois prête. Une autre Haïti est possible, c'est ça. C'est ce que je dis à la dindome aussi, je la mets au féminin, une autre Haïti est-elle possible? Oui, elle est possible, cette autre Haïti. Elle est même à portée, dans la mesure où vous, chacun de vous qui écoutez, prenez la décision de vous mettre avec votre voisin ou celui d'à côté, je ne sais pas trop, vous décidez vous-même, et qu'ensemble, vous alliez vers, si vous voulez, mettez-vous en réseau, mettez-vous ensemble, faites n'importe quoi, dans ce qui est l'objet ou l'alentour de votre intervention, travaillez à ce que cette société change. C'est-à-dire, il faut pas dire qu'est-ce que ce pays va m'apporter, c'est vraiment la phrase, il faut dire qu'est-ce que moi je veux lui apporter.
Et déjà, au niveau individuel, ça peut faire le changement.
Ah oui, assez rapidement. D'autant que ce genre de choses, c'est-à-dire ces expectatives et ces chantiers, ont pour caractéristique d'être des leviers assez faciles à manipuler. C'est comme la TDR. Il suffit de 2 mois pour changer la figure de la fonction publique s'il y a 200 personnes qui ont dû signer un contrat de performance, finalement. Terme de référence, contrat de travail, ça change la figure de n'importe quoi.
Contrat voilà. De performance, ce serait peut-être plus joli que terme de référence. Contrat de performance.
Un contrat de performance, oui. Il y a des mots comme ça qu'on peut prendre. Alors, TDR est très répandu, terme de référence, mais contrat de performance, c'est peut-être aussi ça. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y a ce contrat de performance? Parfait.
Enfin, la vie pas chère.
Ah ben oui, la mission de coordination.
Nous sommes tellement habitués à la vie chère.
À la vie chère. Mais la mission de coordination, la Constitution ayant prévu des tâches pour le Premier ministre, je suis là rendu et aux missions de l'État 9 et 10, les deux dernières qui sont les missions de coordination, et qui sont en fait la mission de coordination, qui sont de la responsabilité du Premier ministre. Eh bien, le Premier ministre, quand on dit « fait couleuvre la chita », tout ça, etc., ce sont des termes métaphoriques. On peut dire qu'il a l'obligation de l'économie nationale. C'est vrai, la Constitution a donné une job de cercueil au Premier ministre, c'est-à-dire tenir tête au président. Et puis, en même temps, a fait du président un fifine toute bagaille. Donc, c'est une position extrêmement difficile de tenir tête à un tout-puissant. On risque sa tête. Hein? Et puis, bon... Évidemment, on n'est plus dans la période historique où les têtes de Premier ministre roulaient, mais enfin, ça s'est déjà vu. Bon, et donc, quelle est la première mission, fait couleuvre la chita? Bon, on peut la traduire en des termes que les gens vont comprendre, en des termes d'issues, en des termes d'expectatives et de chantiers. Eh bien, la vie pas chère, puisque c'est la vie chère qui est notre problème. Faisons une politique pour la vie pas chère, faisons même une politique pour la vie de moins en moins chère. C'est possible sur les produits de base. C'est possible avec les propositions qui sont actuellement dans la rue. C'est possible de déterminer qu'il existe une politique sociale globale qui soit sur des prix contraints, qu'on vérifie, contrôle, etc. Donc la logique de cette gestion, logique 9, si tu veux, et sa mission de coordination, sa mission de dynamisation, la mission des orientations stratégiques, des initiatives, qui est la première des missions de coordination du PM, enfin le Premier ministre, eh bien la vie pas chère. Et là, un discours sur la vie pas chère est un discours que tout le monde va comprendre. Ce n'est pas un discours de 18 pages écrit par un universitaire lointain qui va être lu à la chambre et que personne ne va comprendre et ne va suivre. Non, Parlez-nous tranquillement 3 minutes de la vie pas chère et de ce qui est fait, qui se mesure au prix du riz, au prix du maïs, au prix du sucre, au prix de... Bon, reconstituons ça, refaisons que la production fasse baisser les coûts. Donc, le ministère de la vie pas chère. Voilà, la tâche, le contrat de performance, qui est celui qui est prêt à prendre pour contrat de performance la vie pas chère. Donc, OK, voilà. Donc, et ce serait un très beau titre de ministère, le ministère de la vie pas chère. On verrait bien ce que ça donnerait et qu'il irait se risquer là-dedans. Bon, ben voilà. Ça, ce sont des issues. Ça, ce sont des termes que tout le monde peut comprendre, tout le monde peut discuter. Et le tout dernier, le 10e, parce qu'il y a 10 missions de l'État, encore une fois fixées par la Constitution. C'est la Constitution qui a décidé d'en mettre 10. Et ça colle vraiment au réel quand on l'analyse. On peut s'en tenir à 10 et pas plus. Et ben le dernier, c'était sur le MP, c'est le ministre à la présidence, le fameux ministère qu'occupe... Jasmin, c'est-à-dire la relation entre l'exécutif, les chambres, la primature, le gouvernement, ce ministère de Couleuvre-la-Chita, de mener Couleuvre-la-l'école, c'est-à-dire cette capacité de, bon, son barrique sirop, quoi, hein, cette capacité de mettre du sirop sur tout le monde, de les maintenir ensemble, etc. Et c'est Joseph Jasmin qui a cette tâche actuellement. Bon, mais c'est quoi? C'est le régime politique et la stabilité. C'est-à-dire comment aboutir dans un pays à ce que la stabilité et le régime politique puissent permettre justement à 9 autres chantiers de fonctionner et ne pas faire de cette petite et dernière exigence d'Ichouz l'essentiel de tout un travail. C'est-à-dire on a l'impression que depuis 2 ans, nous ne travaillons que pour satisfaire ce point-là, qu'il n'y a pas de quick dans l'orchestre, que tout le monde se taise autour de la table, et puis qu'une fois que tout le monde s'est tu, on a atteint l'objectif. Mais l'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif, ce serait ça, pour que les 9 autres
fonctionnent.
Mais l'objectif est que ça arrive sans que les 9 autres fonctionnent. Donc, la manière d'organiser ce 10e aussi dépend. Il faut que ce 10e soit organisé de façon telle que pour les 9 autres puissent fonctionner. À ce moment-là, est-ce la meilleure formule que de découper un petit morceau et ce pouvoir et de donner un petit bout à chacun pour qu'il reste tranquille, ou de l'organiser autrement pour que les 9 autres puissent fonctionner tout en obtenant la stabilité? Encore une fois, c'est à la Constitution de me dire, est-ce que ce régime politique que nous avons là actuellement permet à l'ensemble des expectatives, des 10 expectatives et des 10 chantiers d'exister pour accoucher, si vous voulez, de cette nouvelle Haïti dans le tricentenaire. Nouvelle Haïti, encore une fois, qui est en cours, qui a commencé, qui avance avec ou sans nous, de gré ou de force.
Georges Anglade, bien entendu, vous avez fait un travail immense avec les 5 boules de l'État. Dans la 5e boule, vous faites un résumé. Dans ce résumé, ce point qui consiste à faire couleuvre là, enfin, de mener l'école et de faire le chita, que vous minimisez totalement quand on regarde l'hebdo que vous avez publié dans le Nouvelliste, est pourtant le point qui nous préoccupe le plus. Ça occupe les médias, ça occupe le gouvernement, ça occupe les parlementaires, ça occupe la société civile. Parce qu'en fin de compte, quelque part, il n'y a jamais eu de débat sur qu'est-ce qu'on doit faire d'université ou ne pas faire d'université, sur qu'est-ce qu'on doit faire de l'argent. Enfin, ce que vous estimez essentiel n'est nulle part. Ce que vous minimisez est partout.
Ben c'est ça, c'est la place des choses. C'est pourquoi à travers tous les 36, on dit il nous faut un président plus dompteur que charmeur. Il nous faut changer nos priorités. On ne peut pas faire marcher un pays uniquement sur le charme de la couleuvre à coups de flûte. Il faut qu'un moment, le chita, c'est-à-dire il faut qu'à un certain moment, fonctionne ce ministère de la vie pas chère, que l'on prenne ces 9 expectative à transformer en 9 chantiers. Maintenant qu'on disait avant faire le chita, c'était un peu flou. Maintenant, nous le définissons en termes d'issue. Et en termes de chantier, en termes d'enjeux, en termes de défis, en termes d'expectatives et de chantiers, eh bien, il y en a 10. Ce n'en est qu'un seul sur lequel nous nous sommes spécialisés et ce qui nous préoccupe essentiellement. Et puis, paf, on retrouve un matin la vie chère, on retrouve un matin la famine, on retrouve un matin la menace que les gens prennent la rue, la menace que d'avoir ce qu'on appelle des émeutes de la faim, F-A-I-M, et ce sont les émeutes de la faim, et ce qu'on a vu on a vu Caracas, moi j'ai vu les flancs de Caracas en feu, hein. J'ai vu Caracas brûler, et les cités en flammes, etc. Non, c'est vraiment C'est vraiment des spectacles, je ne vais pas dire grandioses, dramatiques. C'est la modernité, c'est Rome qui brûle sous Néron. Et donc, parce que c'est cher, parce que le peuple n'avait plus de jeu, plus de pain. C'est le pain de la cesse. Donc là, si les gens ont faim, si les gens n'ont pas de préoccupation, il est évident que, et c'est ce qu'on disait dans le fameux télégramme d'avril 2006, 18 avril 2006, c'est qu'on a évité quelque chose de très grand à Port-au-Prince. Et je prie chaque jour que ça continue à être évité et puis qu'on a su l'éviter. C'est-à-dire cet affrontement rwandais, cet affrontement africain à l'intérieur de la ville qui nous aurait fait couler le sang pour rien. On a su l'éviter. Mais maintenant, on a une deuxième menace. C'est le type latino-américain maintenant. C'est la bidonville, c'est la cité, c'est la faim, c'est le peuple. Quand on a une ville à 95% populaire d'un peuple et à 5% minoritaire d'une minorité. Donc, comment va-t-on éviter aussi cet autre ? Mais c'est la gestion, c'est le rôle de l'État. Et voilà les expectatives et les chantiers de l'État. Est-ce que en 9 mois, d'hebdo, est-ce que... Et je dois dire que, bon, ça a été un exercice que j'ai trouvé absolument intéressant, un défi, un pari, parce que pendant 9 mois... c'était tout à fait nouveau pour moi, ce champ, je dirais, de la presse. Il a fallu qu'à chaque semaine, je délivre mon papier, à chaque semaine que sorte l'hebdo, c'était ça la nouveauté. Alors la pensée devait très très vite se formaliser, se structurer, s'articuler, parce que les 36 hebdos sont en articulation les uns aux autres. Ils disent tous une parole que peut-être les gens n'ont pas saisie au début, mais qu'à la fin, ils vont saisir. Il n'y a pas eu un seul hebdo pour rien. Tout était articulé dans un ensemble. Bon, voilà, les 36 aboutissent à ça maintenant. Vous avez quelque chose de cohérent, de global, et qui annonce d'ailleurs les 9 derniers hebdos qui vont arriver avant Livre en folie le 22 mai. Donc, il reste encore 9 autres à faire et que vous aurez chaque mardi pour les 9 prochaines semaines. Mais pour le moment, vous avez la construction, une construction cohérente. Eh bien, c'est ça, d'aboutir aux 10 expectatives et aux 10 chantiers, aux 10 issues, au moment même où le monde entier est en train de vivre au rythme des issues, c'est-à-dire au rythme des élections américaines. Et le monde entier ne vote pas pour l'élection américaine, mais le monde entier
est concerné,
est à la traîne de l'élection américaine. Et cette élection se livre à coups d'issues. Donc, que nous ayons nous aussi mis en place une certaine conception, articulation de nos issues, ben voilà,
c'est ça. Georges Anglade, un intellectuel, tient toujours à ses idées. Quelqu'un d'autre viendrait et proposerait d'autres expectatives.
Ah, mais c'est ce que je souhaite. Et nous les discuterions. Et nous verrions à quoi ils consistent. Non, mais je vous rassure, j'ai déjà reçu hier matin des propositions d'autres expectatives. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille maintenant, qui a travaillé au cours de cette élection américaine, beaucoup moins sur les expectatives, comme je suis obligé de le faire avec mes hebdos, puisque j'ai un rendez-vous chaque semaine avec vous. Il faut que je dise des résultats. L'autre n'avait pas cette préoccupation. Donc pendant les 9 mois, il a pu lui réfléchir sur en quoi consiste une issue, comment la définir, quelles sont les caractéristiques qui sont sorties en observant la société américaine, comment faire la théorie des issues. Bon, toute chose qui a eu un approfondissement très grand, mais qui est tout à fait nouveau. Nous sommes en 2007-2008 face à un savoir nouveau et un savoir-faire nouveau, un savoir-faire de la politique nouvelle quand une société a muté, comme la nôtre. Et elle passe par ses expectatives et ses chantiers. Nous savions que nous avons besoin de chantiers. Ce n'est rien d'autre que le problème de la vision hein, que nous avions eu il y a 2 ans. C'est-à-dire quand, au tout début de ce gouvernement, il était question de savoir quelle était la vision qui allait sortir. En d'autres termes, on pourrait dire quelles étaient les issues, quels étaient les chantiers, quelles étaient donc les expectatives. Comment pouvait-on penser ce tricentenaire ? À quelles conditions pouvait-on le voir ? Chaque personne, je suppose, a été travaillée à sa manière et dans son coin à ça. Moi, je l'ai fait de manière publique à l'intérieur du Nouvelliste, en faisant chaque mardi et en livrant chaque mardi ma petite tranche. Mais, je sais pas, je m'étonnerais pas qu'il y en ait dans tel ministère, dans telle primature, enfin, dans tous ces gros tontons-là qui sont cachés dans toute la structure de pouvoir et qui sont des hommes de puissance, mais de silence. Il doit y avoir plein de travaux auxquels je n'ai pas accès, mais qui doivent aller dans ce sens-là, c'est possible.
Espérons
on les verra.
Espérons qu'un jour tout ça sortira des tiroirs et que ce sera traduit en chantier concret. Georges Anglade, c'est un plaisir d'être avec vous, c'est un plaisir de vous recevoir à cette émission hebdomadaire qui passe sur Magic 9. L'émission sera reprise cet après-midi à 5h et encore dimanche à 5h sur Magic 9. Georges Anglade, ça a été un plaisir.
Encore une fois, c'est toujours un plaisir et à la semaine prochaine.